franceinter.com.
Bonjour mon cher Alain
Baraton. Bonjour Patricia, je n'ai pas vraiment entendu la petite annonce à l'instant. Quel est le titre de la chronique ?
Je ne sais pas. Nous parlons du noyer ?
Oui, et puis c'est la semaine prochaine, je le dis aux auditeurs qui posent souvent des questions sur leur journal, mais également sur vous. Donc la semaine prochaine, soyez sans crainte, je vous communiquerai à l'antenne le numéro de téléphone personnel de Patricia Martin.
Le noyer commun, puisque c'est de lui qu'on va parler, est un arbre super, mais est-ce qu'il est originaire de France ?
C'est pas très simple. Le noyer n'a eu de cesse d'apparaître, puis de disparaître au fil des millénaires. Il vivait en France partout, presque, mais sous le quaternaire, puis il disparaît avec la glaciation des terres. Il revient il y a 3000 ans, mais sa présence se limite aux régions alpines. Il faut encore attendre des siècles pour qu'il soit partout présent.
Et cet arbre est sujet à nombre de croyances et beaucoup de traditions aussi.
C'est exact, comme en Bretagne où une coutume voulait que le soir à la veillée, j'adorais ces soirées, vous savez, à la veillée, bien les filles cachaient dans leurs habits des noix que les garçons devaient attraper. Si un galant arrivait sans trop de difficulté à en attraper une, il n'y avait pas de doute, les deux jeunes étaient faits l'un pour l'autre et on les mariait.
Et c'est comme ça que ça se passait. Et à défaut de se marier, on pouvait simplement, grâce à une simple coquille, recevoir un baiser.
Oui, c'est ce que j'ai découvert en lisant Le Sieur Rosier. Je dois avouer qu'il n'a pas laissé une grande trace dans la littérature. Cet homme est né en 1780. Et bien dans un de ses ouvrages, voilà ce qu'il écrit. Dans certaines régions, la famille et les voisins se réunissaient pour décortiquer les noix avant de les presser pour obtenir de l'huile. Si d'aventure une jeune fille laissait tomber dans le récipient avec le fruit un morceau de coquille, celui qui travaillait à ses côtés avait le droit de l'embrasser.
D'où l'intérêt de choisir ses partenaires de travail.
Eh oui. Alors j'ai aussi découvert que le fruit du noyer, la noix, permettait au Moyen-Âge d'élaborer un élixir bien utile aux messieurs défaillants. En mélangeant un soupçon de brou de noix, un peu d'alcool, du bon vin rouge et un doigt de sucre, vous obteniez un breuvage qui rendait, paraît-il, les amoureux fatigués plus que dynamique, si vous voyez ce que je veux dire.
On voit très bien. Est-il vrai que rien ne pousse, ou presque, sous un noyer ?
Ce n'est pas une légende, c'est la réalité. Le noyer sécrète par les feuilles une substance appelée juglon, ça vient du nom botanique de l'arbre, juglans. Sur le sol, cette substance bloque la germination des herbes et stoppe la croissance des plantes adultes, excepté peut-être la jolie pervenche de Madagascar. Je le dis parce que souvent on me dit, rien ne pousse sous le noyer, que peut-on y mettre ? Alors maintenant, j'ai une question pour vous, Patricia Martin.
Oui.
Une orangerie est un lieu planté d'orangers.
Oui.
Une roseraie est plantée de roseaux.
Oui.
Une bambouseraie.
De roses.
Oui, une roseraie est plantée de roses,
bien
sûr. Une bambouseraie est un lieu planté de bambous. Mais comment se nomme un lieu planté de noyers ?
Alors, à mon avis, c'est une question piège. Ça ne doit pas avoir grand-chose à voir avec le mot.
C'est pourtant très simple.
C'est quoi ?
Que produit un noyer ?
Des noix.
Et donc, c'est une noiseraie, c'est tout simple.
Ah, une noiseraie. C'est aussi bête que ça.
Encore faut-il avoir un peu de culture.
Peut-on diviser des touffes d'astères ? Et si oui, est-ce la bonne période en ce moment ? C'est la question de Catherine. Vous y répondrez, si vous le voulez bien, après la chanson d'Hubert Félix Thiéphaine, qui sort un nouvel album le 24 novembre prochain. C'est le 17e depuis le début de sa carrière. Un petit avant-goût avec Angelus.
Je te salue, Seigneur, du fond de l'inutile, à travers la tendresse de mes cauchemars d'enfant, le calme des espoirs, de mon bonheur tranquille, et la sérénité de mon joyeux néant. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première. Je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, pendant que mes ennemis amnistient leur conscience, que mes anciens amis font tomber sentence. Les citoyens frigides tremblent dans leur cervelle quand les clochards lucides retournent à leur poubelle. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais. Paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, salut Seigneur, du fond de tes abîmes, de tes clochers trompeurs, de tes églises vides, je suis ton cœur blessé, le fruit de ta déprime. Je suis ton assassin, je suis ton déicide, et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Oui, je m'en vais ce soir. Oui, je m'en vais ce soir.
C'est toujours aussi bien, Hubert Félix Stiefen. Mmh. Alors, que peut-on répondre à Catherine qui vous demande si on peut diviser des touffes d'astère et à quelle période ?
Alors, idéalement, je dirais le printemps. Idéalement, vous sortez le pied d'astère, vous donnez des coups de bêche pour séparer, pour diviser la souche et vous obtiendrez ainsi plusieurs plants. Mais vous pouvez aussi, ne mentons pas, le faire maintenant. J'ai constaté que les astères sont des plantes assez vigoureuses.
Ça ressemble à quoi d'ailleurs ?
Alors, les astères, ce sont des plantes qui sont le plus souvent bleues. Il y en a des roses, il y en a des blanches, il y en a de toutes les hauteurs, mais la variété la plus commune atteint largement 1 mètre 50 de hauteur. L'avantage de l'astère, c'est qu'elle fleurit maintenant. C'est l'une des plantes qui fleurit le plus tardivement. Elle ressemble grosso modo, je dirais, imaginez un mélange entre un chrysanthème et une marguerite. Voilà. Mais vous connaissez la fleur. Elle est vraiment délicate, elle est très belle. C'est une plante qui résiste à tout et qui effectivement peut se multiplier facilement. Au printemps, idéalement, mais vous pouvez tenter l'expérience. Je vous le dis parce que nous en plantons dans les parterres à Versailles et nous les retirons à l'automne. Nous en profitons pour les diviser et le résultat est satisfaisant. Bien. Donc, ne pas se priver.
Deuxième question de Catherine qui a fait des boutures de rosiers en septembre. En septembre 2013, elle les a mises en terre au printemps. Elles se sont bien développées. Est-ce qu'elle peut les repiquer maintenant ?
Alors déjà, lorsque l'on a fait des boutures de rosiers, avant de les repiquer, on arrose le pot délicatement la veille et on dépote le lendemain. Tout ça pour éviter que la terre ne s'effrite, vous me suivez. Et en retirant le pot, on voit s'il y a beaucoup de racines. Si le pot effectivement est parcouru par des petites racines blanches, la plante peut être repiquée. Mais, nous sommes en automne, nous sommes en octobre. Et je pense qu'il serait préférable d'attendre le printemps. Les petits rosiers sont fragiles. C'est un petit peu comme des petits chats, ils sont tout petits, ils ont besoin de chaleur. Eh bien, le rosier petit a lui aussi besoin d'être cocooné. Donc, attendez plutôt le printemps, mettez vos rosiers dans un endroit où il y a de la lumière. N'oubliez pas de les arroser raisonnablement. Et au premier jour du printemps, lorsque les grosses gelées ne seront plus à craindre, vous pourrez à ce moment-là mettre vos boutures de rosiers en pleine terre.
Question de Daniel qui vous a d'ailleurs envoyé un courrier. En quelques semaines d'été, ma pelouse graminée et un peu de trèfle rampant a été entièrement envahie par du plantain, sauf deux bandes qui sont à l'ombre. Quelle est l'origine de ce phénomène et comment s'en débarrasser ?
Ce qui est assez amusant, c'est que les Indiens d'Amérique appelaient le plantain le pied de l'homme blanc parce qu'ils avaient constaté que l'homme blanc aux États-Unis ne respecte absolument pas la nature et qu'en travaillant le sol d'une manière inconsidérée, eh bien la plante qui envahissait la parcelle était le plantain. Le plantain atteste d'un sol qui est quelque peu maltraité. Donc je ne veux pas, bien entendu, accuser notre ami de maltraiter le sol, mais s'il y a le plantain, c'est qu'il a dû travailler le sol d'une manière, j'allais dire, un petit peu trop inhabituelle, et que la plante en a profité pour envahir l'ensemble du territoire. On parle également de bandes à l'ombre. Tout simplement que dans cette partie où les plantes sont fragiles, peu de plantes acceptent l'ombrage, et bien les petits végétaux délicats qui étaient prêts à s'installer ont été dépassés par le plantain. La seule chose à faire, c'est de retourner au printemps, il vaut mieux attendre le printemps, de refaire un véritable semis de gazon pour débarrasser la terre du plantain. Mais je vous rappelle que le plantain prolifère là où la terre est maltraitée. Les Indiens étaient des sages.
Nous parlions de noyers tout à l'heure, et bien Anne a des noix qui sont certainement victimes de la mouche du brou. Comment m'en défaire ?
Ah, la mouche du brou, petite mouche qui arrive gentiment, qui pond. Le problème, c'est que elle détruit la noix, effectivement. Alors, que faire? Eh bien, la méthode la plus simple, c'est, vous vous rappelez les plaquettes Vapona quand on était enfant? Je ne sais pas si ça existe toujours, mais il existe dans le commerce aujourd'hui des rubans adhésifs jaunes, car la mouche est attirée par le jaune, qui viennent se coller. Alors, vous les installez dans l'arbre, mais attention, attention, mettez une petite protection autour pour que les oiseaux, eux, ne viennent pas s'y coller. Donc, vous en disposez quelques-unes et ça suffira largement.
Tomber dans les pommes, c'est le titre du livre que vous nous conseillez ce matin.
Oui, et il est signé Hervé Guirec et Jean-Pierre Roulant pour les textes, Loïc Tréhin pour les aquarelles, superbes aquarelles, 50 pommes qui sont décrites, dessinées superbement, où l'on apprend tout sur les pommes. C'est Tomber dans les pommes, c'est publié aux éditions Locus Solus, ça coûte 24,90 €.
Merci beaucoup Alain Baraton et à samedi prochain.
À samedi.